de Noir sur Agora Côte d'Azur, deuxième partie.
Tuer le fils. Non, Jacques, ce n'est pas une injonction vis-à-vis de toi. Tuer, c'est en un seul mot, c'est le verbe du premier groupe. Tuer le fils, c'est donc le titre du dernier roman paru de Benoît Sévrac. Ce roman est paru d'ailleurs, comme les deux précédents, à la Manufacture de Livres.
Les deux précédents de Benoît Sévrac.
Voilà, exactement. On y fait la connaissance, au début du roman, de Mathieu Fabas. Celui-ci sort de prison, des années de tôle, 13 je crois, pour avoir tenté de prouver à son père, Patrick, qu'il était un homme. En fait, assassiner quelqu'un, tuer un autre homme, afin de voir dans l'œil de son père, pour une fois, un peu d'admiration, un peu d'affection. Allez quoi, juste un peu d'attention. Faut dire que le père, Patrick, c'est un testostéroné, un biker, passionné de mécanique à deux roues. Patrick, il aime pas les fiottes, il aime pas les arabes, les basanés. Il a une certaine condescendance et même une certaine admiration pour Hitler et les nazis. Mathieu a eu beau, à l'époque, tenter de suivre, de s'enthousiasmer par exemple pour un concert de Johnny où son père l'avait emmené, rien n'y a fait. Alors, il y va carrément un meurtre. Évidemment, la zonzon. Et puis, un jour, Mathieu sort de prison. Le lendemain, son père est assassiné.
Ah d'accord, et alors pourquoi tuer le fils ?
Ben, ce roman s'appelle « Tuer le fils », c'est une bonne question, parce que plus que l'enquête, plus que la résolution du meurtre, le meurtre du père, donc tuer le père, c'est le véritable sujet. Comment le mépris d'un homme, d'un père, peut détruire un enfant ? Puis comment des années de prison peuvent aussi anéantir un être humain ? Mathieu Fabas est devenu meurtrier car le paternel a consciencieusement tué l'enfant, l'adolescent, l'a blessé plus qu'avec ses poings.
Tuer le fils donc.
Voilà. Le pire, c'est que le père, Patrick Fabas, en est conscient. Petit extrait. Il s'abîmait dans les mauvais traitements qu'il infligeait à son fils. Il se voyait agir comme un monstre, assister à cette déshumanisation de Mathieu et de lui-même sans pouvoir l'empêcher. Au contraire, c'était une spirale qui allait dans le sens du pire, vers des actes de plus en plus dégradants. Mathieu, donc, est assez vite soupçonné, je rappelle qu'il est sorti la veille du meurtre de son père, et en plus, on découvre à côté du corps de celui-ci un journal.
Un journal intime ?
Oui, c'est un journal qu'il a écrit en prison, à la suite d'un atelier d'écriture. Et c'est une des grandes qualités de ce roman, que de découvrir le personnage principal, Mathieu, comme le découvre d'ailleurs le flic qui enquête, son nom c'est Cérissol, et puis il y a toute son équipe, de découvrir ce personnage principal par ses paroles écrites. Mathieu a, en prison, participé à un atelier d'écriture, et grâce à l'écrivain qui l'a encouragé, il a couché sur le papier ses souffrances, et c'est, je dirais, les mots les plus intimes. C'est vraiment une des grandes qualités de ce roman, cette double narration. L'enquête et ce journal, un roman dans le roman. Certes, c'est pas la première fois que le procédé est utilisé, un roman qui est la clé de l'énigme, mais là, rencontrer, découvrir un personnage avec ses propres mots, pudique, maladroit, mais tout en justesse, c'est vraiment une très belle idée de Benoît Sévrac.
Mais Benoît Sévrac nous raconte quand même l'enquête.
Oui, il y a une petite équipe qui est chargée des investigations à Versailles. C'est l'autre réussite de ce roman. Des personnages de flics, je dirais tout à la fois normaux, par rapport à plein de romans où actuellement ils sont pleins de casseroles. C'est des flics donc tout à la fois normaux et quand même atypiques dans un roman noir. On a le chef, Cérissol, accro à la confiture. Alors il est capable de se bouffer sans cuillère un pot de confiture en 10 minutes.
Ça change du Jack Daniels ou des autres lignes de blanche.
Tout à fait, mais ça lui procure d'ailleurs les mêmes problèmes de santé que des addictions différentes.
Sauf que c'est les gars.
Voilà. Nicodemo, autre flic sous les ordres de Cérissol, pardon, lui est d'origine portugaise, avec une foi profonde qui va s'insinuer dans les idées et les jugements. Et enfin, un troisième de l'équipe, Groupière. Je dirais la grosse tête de l'équipe, anthropologue, il a fait son doctorat, et il est expert en arts martiaux, comme il le dit, en cas d'interpellation musclée, lorsque l'anthropologie montrait ses limites, il avait recours aux arts martiaux. Je trouve que c'est un équilibre plutôt correct. Et moi, vous avez peut-être compris depuis le temps, J'aime pas vraiment le milieu des flics et les enquêtes classiques. Eh bien là, je trouve que Benoît Cévrac réussit un portrait de groupe tout en finesse, montrant le fil de leur relation entre ces trois personnages, la famille aussi, la femme de Cérizol joue un rôle très très important. On a les bons jours, les mauvais, les connivences comme les coups de gueule. C'est très bien vu, très bien raconté.
Donc, de toute façon, si on en parle, c'est parce que c'est un bon roman.
Voilà, et je dirais même un très bon. L'écrivain toulousain a vraiment bien construit ce récit. La noirceur du destin de Mathieu Fabas étant bien contrebalancée par le rythme des investigations du trio de flics. Comme je l'ai déjà dit, leurs doutes, leurs petites bassesses, leur cheminement de vie, ça marche vraiment. Enfin, il y a cette réflexion sur l'écriture, ce qu'elle peut amener dans la vie de quelqu'un, comment ça peut-être le sauver d'un destin tragique en prison, ou à l'inverse, enfoncer et faire sombrer des existences du mauvais côté de la force. Voilà, on ne va pas raconter toute l'histoire.
En plus, il a choisi de faire... Ça se passe à Versailles et pas dans la région sud-ouest où d'habitude ces romans...
Voilà, il n'y a que le portugais Nicodemo qui a un peu l'accent, mais pas évidemment celui du sud-ouest. Voilà, et pour illustrer ce roman...
On a parlé de Johnny.
Voilà, Patrick, celui qui est assassiné au début du roman, est un fan absolu de Johnny. Et Mathieu, son fils, se retrouve en prison. Donc, vous allez presque deviner tout seul qu'on va vous passer un petit extrait du pénitencier chanté par Johnny.
Une chanson quand même de Alan Price, n'est-ce pas, des Animals.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini.
Johnny. Jacques, tu vas clôturer cette émission en nous parlant d'un livre que tu as beaucoup apprécié, mais je te laisse donner le nom de l'écrivain. J'en serais bien incapable.
Facile. Wojciech Szmirlas.
Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal.
Le roman s'appelle La Cité des Rêves. Il est publié chez les éditions Agulot et il est traduit par Éric Vaux. Et dans cette Cité des Rêves, il va y avoir un meurtre.
Mais cette Cité des Rêves, c'est quoi exactement ?
Eh bien, en fait, c'est une de ces résidences fermées, surveillées, gardiennées, où il faut monter patte blanche et même plus pour pouvoir entrer et aussi pour pouvoir sortir. On n'est pas sur la Côte d'Azur, dans les hauteurs de Mougins, comme dans le roman Pur d'Antoine Chénas, il y a quelques années, mais dans les nouveaux, enfin dans l'un des nouveaux beaux quartiers de Varsovie.
Donc on est en Pologne.
Voilà, il y avait ce qui explique un peu le nom de l'auteur d'ailleurs.
Il y avait aussi un excellent roman d'Alicia Jiménez-Bartlett qui se passait dans ses résidences très fermées en Espagne. Là c'était dans la banlieue de Barcelone, me semble-t-il.
Voilà, c'est ça. Donc on va retrouver une jeune femme morte au pied d'un immeuble, de cette cité des rêves donc, l'immeuble dans lequel elle vivait. Elle a reçu un coup de couteau dans l'artère fémorale, donc quasiment aucune chance de s'en sortir. En plus, l'arme du crime est retrouvée non loin du corps. L'enquête semble facile pour l'inspecteur Mokta, on va dire. Mais lui, il ne va pas se laisser prendre aux évidences, d'autant qu'on lui fournit une coupable toute désignée, une Ukrainienne, la plèbe des travailleuses immigrées en Pologne.
Tu nous introduis ce personnage de l'inspecteur Mokta comme si tu le connaissais depuis longue date. C'est un personnage récurrent ?
Et ben en fait, oui, c'est sa quatrième enquête. En fait, c'est le quatrième roman dans lequel il est le flic récurrent donc, de Wojciech Szmierlas.
Ah, bravo, vraiment, de mieux en mieux. Hein.
Mais je crois que, faudrait vérifier, mais je crois que c'est la première fois qu'on en parle dans Nos Ondes Noires.
Ah, moi, j'en suis bien sûr.
Donc, Jakub Mokta. C'est un trentenaire divorcé, deux fils. Il entretient une relation sérieuse avec Olga. C'est un peu comme ça qu'il se présente au début du roman, en quittant cette fameuse Olga très tôt un matin pour rejoindre la scène de crime, celle où la jeune femme vient de se faire assassiner. Il va rejoindre son adjointe, la lieutenante.
C'est mieux.
Nina Sushkov.
Sushka,
voilà.
Ça, c'est facile.
Et elle y tient aux lieutenantes, parce que le lieutenant a un genre en polonais aussi. Cette lieutenante, Sukoshka, est dite la sèche. C'est une vraie tête de mule.
La sèche, attention, là aussi, il y a un problème d'orthographe. Sèche, c'est comme le calmar. Enfin, c'est pas un calmar.
Ah non, c'est sèche comme...
C'est comme sèche. Comme sèche, voilà. Très sec.
D'accord. C'est ça.
D'accord.
Alors après, vous verrez pourquoi, je vais pas tout vous dévoiler. Et c'est une vraie tête de mule, l'a décrit... Alors, c'est pas l'auteur, enfin si, c'est l'auteur, mais c'est plutôt Mokta. Et c'est un duo d'enquêteurs qui est souvent bisbille, mais qui est... relativement efficace, même très efficace. Non loin du cadavre, on découvre une valise à roulettes et un sac à main. Pas de viol, pas de vol, mais quand même, la jeune femme semblait s'en aller. Elle n'a pas été bien loin. Les deux flics vont fouiller dans la vie des habitants de cette cité des rêves, et découvrir que sous une façade assez bien ripollinée se cachent plutôt pas mal de turpitudes. Drogue, corruption, mafia... Hommes politiques sur le retour, journalistes véreux. Bon, ils ne sont pas tous dans la cité, mais ils vont intervenir dans le roman. Et l'arrivisme est au coin de la rue. Et aussi, ce cancer de nos sociétés qui sévit là-bas aussi, le racisme. Alors leurs émigrés, ils ont quelques Turcs, mais leurs émigrés, c'est surtout des Ukrainiens qui sont exploités, méprisés. Et donc, évidemment, c'est facile d'en faire...
Des boucs émissaires. Des têtes de Turcs, puisque ce ne sont pas trop de Turcs émigrés.
Voilà. En parallèle, on retrouve l'ex-adjoint de Mokta, qui s'appelle Koshan. Lui, il s'est fait placardiser après une affaire louche. Et du coup, il est censé s'occuper de vieux cold case. Et puis, il s'en sort très bien. Et il va découvrir des choses qu'il aurait peut-être pas dû. Les différentes enquêtes vont mener donc les flics dans les bas-fonds de la ville et aussi dans les hautes sphères. Lesquelles hautes sphères n'aiment pas être dérangées dans leur tour d'ivoire.
Donc en fait, cette cité des rêves correspond à ce qu'on appelle en général un woodunit, c'est-à-dire un roman policier classique. Le lecteur suit une enquête pour trouver le coupable avec évidemment plein de péripéties.
Oui, c'est un peu ça, mais c'est bien plus que ça en fait. C'est aussi un roman noir et aussi un roman en fait qui fonctionne très bien grâce à son binôme de flics. Il a évité, un peu comme tu disais tout à l'heure...
Oui, pour Benoît
Sévrac, il a évité le flic dépressif ou le cogneur tough guy, puisqu'il n'y en a qu'un. Il y a un brin d'humour qui suffit souvent à détendre... l'atmosphère d'une séquence un peu trop noire, et il va y en avoir parce qu'ils vont fouiller dans des choses qui sont pas très belles. Les dialogues sont particulièrement réussis et ça permet de mettre une bonne distanciation avec la narration. Merci. Et puis surtout, on découvre un pays que l'on connaît peu, la Pologne moderne, avec laquelle Certes, on a fait la connaissance dans les romans de Zygmunt Milošević.
Ça, c'est des romans dont on vous a parlé, tout au moins les deux premiers, qui étaient aux éditions Mirobol à l'époque, que dirigeait aussi Nadège Agulot à cette époque-là. Zygmunt Milošević, vous en avez beaucoup parlé.
Et il continue d'écrire d'ailleurs. Mm-hmm. Tout comme son confrère Shmirlaz, ils ne sont pas du tout tendres avec leur pays et avec leurs compatriotes. Voilà ce qu'on dit tout au début du roman, notre auteur, Wojciech, on va dire Wojciech, il parle de la Pologne. Les gens avaient oublié qu'après 6 ans de guerre et 45 ans de communisme, ce malheureux pays n'était plus en état de fonctionner. Tout s'y était déglingué aux limites de l'impossible. Non pas en dehors, car de l'extérieur, il avait toujours l'air de quelque chose, rafistolé bien sûr de briques et de broc. Ficelé à l'aide de ces ficelles qui manquaient tellement pour lier les bottes de blé au moment de la moisson, étant donné qu'elles avaient été utilisées à n'importe quoi d'autre, et sans lesquelles ce vaste bordel qui avait pour nom la Pologne populaire se serait disloqué en une gigantesque catastrophe. Le pays entier se serait effondré, comme on s'entend l'édifice du grand marché Katowice. La ficelle était devenue un matériau stratégique au même titre que l'uranium qui sert à produire des bombes.
Évidemment. Ceci dit, un trafic de ficelles, c'est peut-être quand même un petit peu moins dangereux qu'un trafic d'uranium.
Oui, puis on imagine...
qui existe aussi.
Oui, oui, puis on imagine bien la mafia de la petite ficelle.
Oui.
Dans les dernières lignes du roman, bien qu'il ait résolu l'affaire principale, le meurtre de la jeune femme donc, l'auteur, assez habilement, comme dans les meilleures séries américaines, nous fait un petit cliffhanger. Donc il nous sort une petite... juste une petite truc à la fin de son roman qui sera... le sujet, ou pas d'ailleurs, de son prochain roman, ou alors simplement une fin ouverte qui laisse au lecteur le soin
d'imaginer.
Exactement. Après tout, il n'est pas obligé de nous donner toutes les réponses. Comme il nous reste un peu de temps, je vois sur l'horloge là-haut, nous allons écouter un excellent groupe de blues polonais. Ils s'appellent les Two-Timers. Alors, ils ne sont pas de Varsovie, sur le Poznan. C'est un extrait de leur premier album qui s'appelait Two-Timers, un blues bien gras qui s'appelle I Am Angry.
Voilà à la fin de notre émission, donc c'est le moment de vous dire traditionnellement, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bonsoir
à très
à
bientôt.
Tous.